Et sans plus tarder, je vous invite à suivre l'émission en dialogue entre Congolais avec Alain Rung à la présentation.
Bonsoir, dialogue entre Congolais reçoit le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Luzolo Bambi, pour répondre à toutes les questions relatives au processus de recrutement des nouveaux magistrats, ainsi qu'à d'autres questions d'actualité liées au fonctionnement de la justice en RDC. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, monsieur le ministre.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez le bienvenu dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Alors nous allons directement nous plonger dans la matière, monsieur le ministre. Commençons par le recrutement des magistrats. C'est l'actualité dans la magistrature actuellement. Le test a eu lieu la semaine passée. À ce jour, où en est-on?
Après le test, c'est l'organisation de la correction qui est en cours. S'agissant déjà du test, je dois réaliser auprès de vos collègues que contrairement à ce qui avait été dit, il n'y avait pas 13 000 candidats au test. Il y avait plutôt 6 700 candidats qui ont effectivement présenté le concours étaient à 6 700. Et donc, après le concours, ça fait plus d'une semaine, étant donné que la crédibilité de cette opération dépend largement des personnalités chargées de corriger ces copies, et donc on s'attelle actuellement à organiser l'équipe qui sera chargée de corriger ces différentes copies. Il faut par ailleurs relever un principe important constitutionnel ici, que l'organisation du concours de recrutement de magistrats relève du pouvoir du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe indépendant, comme l'est le pouvoir judiciaire, et que le ministère de la Justice y apporte un accompagnement politique, tout simplement. Et donc, on en est là. À l'organisation du recrutement, il s'est posé un problème de sécurisation des copies. Et donc, les copies sont gardées par les coffres de la Banque centrale du Congo. Et donc, c'est une garantie de sécurité. À ce stade-là, les précieuses copies sont gardées comme de l'argent. Et donc, les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature vont, dans les jours qui viennent, annoncer la liste des correcteurs retenus et le calendrier de la correction jusqu'à la publication des résultats.
Voilà, là, monsieur le ministre, c'est la première garantie. Les copies sont gardées à la Banque centrale. Mais par rapport aux correcteurs, quelles sont les garanties que l'on a que cette correction se fera selon les normes? Il y a par exemple cet auditeur Sylvain Banza Sumbu de Mbujima et Kasai Oriental qui dit: quelles sont les garanties qu'offre le ministre de la Justice par rapport aux candidatures déjà recommandées par les grands de ce pays? Car nous craignons de nous retrouver dans ce recrutement des magistrats comme dans l'histoire de Copirec, dont ceux qui font le test ne sont pas ceux qui sont engagés.
Merci bien. J'aimerais poursuivre dans le cadre d'offres et garanties, c'est que les 6700 candidats,
allez-y,
les 6700 candidats qui ont présenté les tests attendront les résultats de 2000 d'entre eux à 2000, parce que c'est 1000 qui seront recrutés, mais dans un premier temps, c'est 2000 candidats qui seront présélectionnés pour être présenté à un jury qui va le recevoir oralement ici à Kinshasa. C'est à l'issue de la deuxième épreuve du jury que des 2000 candidats, on en retiendra 1000. Donc, en termes de garantie, la forme du concours et de l'épreuve, il y a une présélection, 6700 à 2000. 2000 jury oral. Comme ça, au moins, on identifiera les différents candidats, on les connaîtra, les jurys aura à leur poser des questions. C'est à l'issue de ce jury que de 2000, on passera à 1000 candidats. Les recommandations, tout tourne autour des recommandations actuellement lorsqu'on parle de la justice.
Parce que dans le pays, on nous a habitués à des recommandations des ministres, des députés.
Absolument. C'est notre mal, il faut le jouer. J'aimerais rassurer les candidats et les auditeurs que dans l'esprit du chef de l'État, il faut noter que cette opération de recrutement fait partie du train des mesures qui avaient été prises par le chef de l'État pour redresser le secteur de la magistrature. Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises et au nombre de ces mesures, le principe de l'organisation du concours. J'évoque l'esprit tolérance zéro parce que le gouvernement, le Conseil supérieur de la magistrature, notre pays, a intérêt, au-delà des recommandations, à éviter la corruption ou les recommandations pour un principe simple. Puisque nous voulons des magistrats tolérance zéro, l'indépendance de ces magistrats, l'esprit anticorruption dépendra de la manière dont ils vont devenir magistrats. Je l'ai dit dans les salles, lorsqu'on devient magistrat par une recommandation, par la corruption, par le favoritisme ou le tribalisme, peut-on demain garantir une justice saine, parce que soi-même, on est né de la corruption. Or, tolérance zéro, c'est que le chef de l'État veut que ce recrutement, de par sa manière de se faire, soit déjà anti-corruption. Et donc, l'esprit, comme je vous l'ai dit, ne sied pas à ce que les recommandations qui existent du reste, disons-le, ne soient pas, comment dirais-je, la pesanteur pour identifier les candidats qui seront recrutés et qui réussiront ce concours.
Alors, toujours en restant dans ce concours des magistrats, vous avez fait allusion à l'indépendance du pouvoir, à l'indépendance de la magistrature. Il y a cet auditeur Waro Maya Sainte de Kalimi au Katanga qui vous demande comment le ministre conçoit-il l'indépendance du pouvoir des magistrats.
Merci. Oh, je pense qu'il nous faudrait 2 ou 3 émissions pour parler d'indépendance du magistrat, parce que, voyez, déjà sur le plan de la terminologie, l'indépendance du pouvoir judiciaire, l'indépendance de la magistrature, l'indépendance du magistrat. Je commence par le dernier, l'indépendance du magistrat. Le magistrat, constitutionnellement, dans notre pays depuis 1960, a toujours été indépendant. Les textes lui ont reconnu cette indépendance. Ça signifie que le magistrat doit être indépendant vis-à-vis de lui-même, ses sentiments. Il doit être indépendant vis-à-vis, s'il est officier du ministère public, vis-à-vis du juge, s'il est juge vis-à-vis de n'importe qui, parce que le magistrat ne doit obéir qu'à l'autorité de la loi. L'indépendance du magistrat, c'est aussi combattre l'ignorance du magistrat. Donc la formation et la capacité de comprendre et de trancher valablement. Ça, c'est l'indépendance du magistrat. Maintenant, l'indépendance de la magistrature ou du pouvoir judiciaire, c'est que les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, et particulièrement les fonctions juridictionnelles, lorsqu'ils sont appelés à dire le droit, ils ne peuvent le faire sans une influence quelconque d'où qu'elle vienne. D'ailleurs, c'est en sorte que même le trafic d'influence a été érigé en une fonction. Mais non, est-ce un problème des textes? Je pense qu'au-delà des textes, l'indépendance de la magistrature est plus une question d'homme, plutôt qu'un problème des textes.
Et vous pensez qu'ici, au pays, l'indépendance de la magistrature est garantie?
Si, il l'est. Bien avant la Constitution de 2006, cette indépendance était garantie. On avait pensé que c'était par rapport au rattachement d'une partie de la magistrature, pas de toute la magistrature, aux politiques, je pense aux partis, que l'indépendance était affectée. Maintenant, on peut en parler. Nous sommes en 2009. Notre constitution a 3 ans d'existence. Tous les cris de cœur que la population lance à l'endroit de la distribution de la justice montrent bien que le problème est moins celui de l'indépendance de la magistrature qu'un problème des magistrats. ça signifie de la liberté, de l'indépendance, car chaque magistrat a tiré le droit correctement et en respectant la loi.
Voilà. Pour revenir au test des magistrats, Monsieur le ministre, vous avez annoncé hein, quelques garanties. Les copies sont gardées à la Banque centrale. Il y aura un examen oral. Est-il possible de nous donner un chronogramme, par exemple, que d'ici juin 2010, les résultats seront publiés. D'ici 2011, ils seront affectés, par exemple. Avez-vous un chronogramme précis à donner à tous ces auditeurs qui attendent ça de plein fer?
Merci. Une projection, peut-être, mais encore une fois, voici la preuve de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le concours est organisé par le Conseil supérieur de la magistrature. Ce n'est pas au ministre de la Justice de fixer de manière précise, sans avoir en avoir été informé préalablement par le Conseil supérieur de la magistrature, de ce chronogramme. Cependant, quelques indications sont possibles, parce que nous gérons le calendrier politique et les magistrats le calendrier judiciaire.
Alors, quelles sont ces indications?
Ces indications, c'est que nous avons connu du retard par rapport aux premières dates qui avaient été émises au calendrier initial. Nous pensons que le mois de novembre qui vient, parce que nous sommes au mois d'octobre finissant, sera consacré à l'organisation du concours de présélection. Enfin, on va publier, on va corriger, l'équipe de correction sera publiée, on connaîtra qui sont membres de cette équipe de correction, l'équipe de correction va travailler, et elle va publier les résultats de présélection, et les 2000 candidats seront invités à une date qui sera déterminée, à l'issue de cette date, les jurys oral pour avoir lieu. Pour les jurys orales, je crois que aussitôt que les candidats terminent l'examen, on connaît ses notes. Moi, je pense raisonnablement que nous avons tout le mois de novembre qui vient pour l'organisation, la publication des résultats des présélections et l'organisation du jury. Donc, à mon avis, les résultats définitifs, il faudrait penser fin novembre, début décembre, pour qu'après la formation des magistrats, des magistrats qui seront retenus, puisse être organisé.
Blaise Nguma de Mbandaka à l'Équateur, est-ce que les 1000 magistrats qui seront retenus avec ceux qui sont déjà actifs feront face aux multiples problèmes judiciaires dans tout le pays?
Un magistrat n'est pas n'importe qui. Le magistrat est celui à qui la loi a conféré des pouvoirs qu'aucune autorité publique n'a. En effet, un magistrat, la loi autorise de priver quelqu'un de la liberté. Le magistrat peut vous condamner à l'emprisonnement. 5 ans, 10 ans. Aucune autorité politique et publique ne s'est investie de ce pouvoir. Un magistrat, jusqu'à preuve du contraire, peut vous condamner à mort. Aucune autorité politique publique n'a reçu ce pouvoir. Et donc, un magistrat, c'est un magistrat. C'est d'abord un homme qui porte en lui les germes, le poids de l'histoire de son pays, le degré des difficultés posées par la justice aujourd'hui, la demande de justice à travers le pays, et c'est à celui-là que va reposer toute la confiance du peuple. C'est une raison supplémentaire de dire que le jury ne laissera passer que des candidats dont l'indépendance, la détermination, l'intégrité, en tout cas, seront présumées comme acquises.
Je crois qu'un autre volet de la question de Blaise Nguma de Mbandaka, il voudrait peut-être faire allusion à l'effectif des magistrats. Est-ce suffisant 1000 magistrats pour un pays aux dimensions continentales?
Vous avez raison. Statistiquement, brièvement, si nous voyons le nombre de juridictions civiles et militaires répandues à travers le pays, nous avons à peu près 230 juridictions sur un territoire de 2 345 000 km². Si vous faites la moyenne, nous avons une juridiction pour 30 000 km². La présence judiciaire est faible. Si vous prenez les magistrats, à supposer que nous fassions entrer les 500 magistrats recrutés avec les 1450 que nous avons, nous aurons environ encore 2000 magistrats sur une population d'environ 60 millions d'habitants. La moyenne, c'est la même. Un magistrat pour 30 000 habitants. Le taux de prise en charge de la judiciaire est très faible dans notre pays, nous en convenons. Et c'est dans ce sens-là qu'ils sont inscrits l'esprit du gouvernement de prendre la décision d'organiser le recrutement de 1000 magistrats. C'est un premier pas. Jamais dans l'histoire de notre pays, alors jamais, d'un coup d'un seul, on a recruté 1000 magistrats. Donc, sur le plan de l'effort budgétaire, sur le plan de l'action politique, je pense qu'on est dans le bon. C'est un point de départ plutôt. Ce n'est pas assez, c'est quelque chose, mais on est bien conscient qu'il faudra faire mieux.
Pascal Biya de Lubumbashi au Katanga, le recrutement ne garantit en rien l'indépendance et l'amélioration de la justice en RDC. Aussi longtemps que le traitement des magistrats restera indécent, quelle garantie le gouvernement nous donne pour que les nouvelles recrues ne se comportent pas en prédateurs des justiciables comme leurs aînés?
Merci beaucoup. Lorsque les magistrats sont socialement maltraités, certes, il est difficile d'attendre de lui l'indépendance, l'intégrité. En revanche, l'argent, les conditions sociales meilleures ne sont pas non plus la garantie de l'intégrité.
Mais réduisent quand même la corruption et d'autres facteurs.
Ce n'est malheureusement pas prouvé, mais cela étant, lorsque, au mois de juillet, le chef de l'État avait pris le train des mesures de redressement de la magistrature, il avait été clairement indiqué, et nous l'avons dit, qu'en 2010, les conditions sociales des magistrats seront prises en compte. Je ne suis pas autorité budgétaire, mais je peux me permettre de dire que dans le budget 2010 qui a été présenté, le salaire minimum du magistrat débutant a été sensiblement augmenté. Ce n'est pas le lieu d'indiquer le chiffre pour éviter la polémique. Le moment venu, nous le verrons. Eh bien, il ne faut pas oublier, regardez, il y a quelques temps, le président de la République a accordé la caution morale et financière pour les opérations d'achat individuel des voitures des magistrats. Ce n'est pas tout, certes, mais ce sont des signes précurseurs qui montrent bien qu'il y a une volonté politique cette fois-ci de tenir compte des conditions sociales des magistrats. Et donc, ceux qui entrent, il faut bien le dire, ils seront mis dans les conditions telles que l'opinion, la population, leur sera très rigoureuse, parce qu'ils seront appelés à rendre la justice au nom du peuple. Il faudra donc que demain, ces nouveaux magistrats rendent cette justice pour le compte du peuple.
Toujours en rapport avec les conditions sociales des magistrats, il y a Blanchard Luana de Mbandaka à l'Équateur qui dit que l'État congolais ne se limite pas seulement à recruter les nouveaux magistrats, mais il doit plutôt chercher tout d'abord à donner aux magistrats le même montant de salaire que reçoivent les députés nationaux, sinon ce recrutement ne servira à rien et la corruption et d'autres abus qui handicapent la justice congolaise ne prendront jamais fin. Maître Diego Soumaïli de Kalemi au Katanga, comme vous recrutez de nouveaux magistrats, avez-vous aussi prévu d'améliorer leurs conditions sociales pour éviter la corruption? Magistrat Otchoudi d'Ouvira au Sud Kivu, monsieur le ministre, qu'en est-il de la rémunération des magistrats parce que le salaire actuel ne représente plus grand-chose pour que nous soyons à l'abri de la corruption? Monsieur le ministre, vous avez fait allusion au budget, mais quand on y regarde de près, le budget est resté le même, et vous nous dites là que les conditions sociales des magistrats vont changer.
Oui, parce que déjà, pendant plus de 15 ans, le budget du ministère de la Justice n'a jamais dépassé 0,22%. Cette fois-ci, le budget qui a été premièrement présenté est ramené de 0,22 à 1%. Ce matin, mon ministère a été réponse aux préoccupations de l'autorité budgétaire, donc des commissions budgétaires, pour expliquer le programme du secteur de la justice, en ce compris les conditions sociales et salariales des magistrats. Des échanges que nous avons eus ce matin, j'ose espérer que lorsque le budget de la justice sera présenté en plénière, les choses seront un peu plus claires, et ce que je suis en train de dire se confirmera.
Abordons à présent l'aspect lié aux dernières mises en place qui ont été faites au niveau de la magistrature. Il y a des magistrats révoqués qui se sont constitués en collectif, qui ont introduit des recours à ce jour, monsieur le ministre. Où se trouve ce dossier? À quel niveau se trouve ce dossier, pardon?
D'abord, premièrement, le droit de recours est constitutionnellement reconnu à tous et en particulier aux magistrats qui ont été révoqués. Parce qu'en effet, la Constitution elle-même prévoit, parmi les pouvoirs du président de la République, le pouvoir de nomination, le pouvoir de promotion, le pouvoir de révocation et le pouvoir de réhabilitation. Et donc, si la réhabilitation a été constitutionnellement prévue, c'est que les constituants, les rédacteurs de la Constitution, savaient que, à l'occasion de certaines opérations administratives, en l'occurrence, des mises en place, les pénalisations, les sanctions disciplinaires, des recours peuvent être formulés. S'agissant de la procédure, encore une fois, c'est un problème des magistrats, pas du ministère, un problème du Conseil supérieur de la magistrature. Il me semble que la procédure est que les magistrats adressent leur recours et au président de la République, qui a pris la décision, mais aussi au Conseil supérieur de la magistrature, sur proposition de laquelle la décision du chef de l'État avait été prise. Maintenant, à quel moment ces recours peuvent être examinés? Le Conseil supérieur siège en Assemblée générale. Et cette Assemblée générale, généralement, c'est au mois d'avril de chaque année. Il me semble bien que dans le cadre de l'organisation interne du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il convoquera son Assemblée générale au mois d'avril 2010, toutes les questions liées à ces recours seront présentées, débattues, et c'est à l'issue de cette Assemblée générale qu'au terme des résolutions de cette Assemblée générale, si examen des recours y aura, les résolutions, pourquoi pas, pourront être formulées à l'endroit du président de la République pour réhabiliter ce qui le mérite.
Donc, que ces magistrats attendent avril 2010.
Je pense que sur le plan des principes, c'est bien cela.
Monsieur le ministre, après toutes ces mises en place, il y a des magistrats qui ont été nommés en province, mais qui ne sont jamais partis à cause de moyens. Et il y a Doli de Kamina Okatanga qui dit « Tous les magistrats recrutés seront-ils réellement affectés ou c'est une mascarade ?» Parce qu'il y en a parmi les promus qui ne sont jamais arrivés dans leur lieu d'affectation.
Merci. Je suis très mal à l'aise de parler en lieu et place du Conseil supérieur de la magistrature, qui est un organe indépendant du ministère, qui est d'ailleurs par principe l'organe disciplinaire des magistrats. C'est le bureau du Conseil supérieur, à la demande du gouvernement, qui a procédé aux permutations. Lors de nos derniers échanges avec le bureau du Conseil supérieur, il a été relevé que des sanctions probables seraient prises à l'endroit de ceux des magistrats qui, bien qu'ayant été permutés, et bien qu'ayant touché les frais liés à leur déplacement, ne se sont pas déplacés. Le dernier butoir, me semblait-il, était jusqu'au 20 septembre, nous sommes déjà au mois d'octobre finissant. Je pense que, d'abord, je relève par rapport à la question qu'il ne faut pas dire que les magistrats n'ont pas été permutés, n'ont pas rejoint leur poste parce qu'ils n'ont pas reçu les frais. Les frais ont été perçus. Et la moyenne de ces frais, c'est parti de $400 à $1,812. Parce que tout dépendait du parcours. Il y a des magistrats qui sont partis de Matadi vers Arou. Il y a des magistrats qui sont partis de Kinshasa Gombe vers Kinshasa Ndjili. Il y a des magistrats qui sont partis de Kinshasa vers Lubumbashi. Et donc, d'après le rapport du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, les frais ont été programmés proportionnellement au trajet retenu pour le magistrat muté. Maintenant, tous, ils ont perçu des frais, ceux qui n'ont pas reçu leur poste, me dit le Conseil supérieur de la magistrature, seront rappelés à l'ordre. Pourquoi pas, peut-être disciplinairement poursuivis. Quant aux jeunes magistrats qui viennent, et là j'insiste, la magistrature, c'est un service de l'État. La magistrature est presque comparée, et à la fonction publique et à l'armée. La loi sur le statut de magistrat prévoit, en principe, un magistrat ne peut pas rester pendant plus de 3 ans à un même poste. Et donc ceux-là qui ont présenté le concours, qui veulent devenir magistrat, doivent le savoir dès le départ. Qu'un magistrat, et c'était ça la justification de la dernière mise en place, on a eu des magistrats qui, depuis qu'ils ont été nommés, sont restés à un poste, en l'occurrence Kinshasa, pendant 10 ans, 15 ans, ils sont devenus des chefs coutumiers, ils sont devenus des présidents d'équipes de football, ils ont connu tout le monde, leur liste civile, finalement, ont commencé à être gérée par la société, et finalement, au bout du compte, ils ont perdu de leur indépendance. Et donc, pour ceux qui viennent, la loi prévoit qu'un magistrat doit travailler rotativement tous les 3 ans à un poste. Et ce que je peux dire à ce stade, c'est que le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Justice, soutiendra le Conseil supérieur de la magistrature pour que les nouveaux recrues, en ce compris les anciens qui viennent d'être permutés aujourd'hui, au bout des 3 ans, que la permutation puisse avoir lieu.
Serge Abamungu de l'Université catholique de Bukavu, Sud-Kivu, le gouvernement n'a-t-il pas violé la présomption d'innocence en révoquant des magistrats au motif d'être corrompus sans qu'ils aient été ainsi déclarés par une décision judiciaire?
Je me réserve de répondre à cette question. Je note simplement que les magistrats qui ont été révoqués l'ont été sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Et donc c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui a transmis ses résolutions au chef de l'État qui en a tiré les conséquences à l'issue de son discours du 30 juin dernier. Et donc ce n'est pas à nous de revenir sur la question de la judiciarité de la procédure ou de la disciplinarité de la procédure.
Jean-Pierre Ngoï de Kisangani en province orientale, quelle explication le ministre peut donner au sujet du désagrément survenu dans le dossier aux Efrem en détenant les 2 juges illégalement? Est-ce que le procureur général de la République n'a pas violé la loi?
Encore une réserve du ministre de la Justice. Il ne me revient pas à émettre publiquement mes avis sur les décisions rendues par les cours et tribunaux et sur les difficultés internes que peut connaître le Conseil supérieur de la magistrature, c'est-à-dire entre le ministère public, le parquet, et les sièges, les juges. Je pense que nous devions tous regarder, aller de l'avant, pour considérer que les uns et les autres ont eu des justifications, mais je pense que on n'en est plus là.
Mais tout en respectant votre réserve, monsieur le ministre, ce sont quand même des éléments, hein, qui des signaux d'alarme, d'alerte pour certains observateurs quant à l'indépendance de la magistrature dont vous avez parlé ici.
Ce qui est certain, c'est que le juge est indépendant du parquet. Le parquet l'est aussi vis-à-vis du juge. C'est le principe en procédure pénale de la séparation de la poursuite et de l'instruction. Au nom de ce principe, certes, le juge ne peut pas systématiquement et pénalement répondre de la décision qu'il a prise. Cependant, en revanche, il reste aussi 2 principes que lorsque, à l'occasion du prononcé d'un jugement, le parquet a des présomptions concordantes que la décision qui a été rendue l'a été à la suite de la corruption, je dis bien, si le parquet a des indices et des preuves concordantes, rien n'empêche le parquet à déclencher des poursuites contre un juge parce que la violation de la loi ne protège personne.
Cyprien de Kinshasa, cette situation ne va-t-elle pas, cette situation hein, de l'OGFM avec l'ADG Emile Ngoï, ne va-t-elle pas effrayer les futurs magistrats qui vont douter de leur liberté d'action?
Je veux que vous fassiez confiance à nos magistrats. Cher ami, il faut dire aux auditeurs que la meilleure façon d'apprécier la nécessité et le travail de la justice aujourd'hui, c'est d'imaginer une situation de notre pays avec justice zéro. Ça signifie une période sans cour, sans tribunal. Je pense que le dégât serait profond. Ça signifie que chaque jour, les magistrats, dans la mesure de leurs moyens, avec leurs qualités et leurs défauts, avec leurs faiblesses et leurs points forts, font le travail tous les matins. Et donc, je pense qu'il faut les encourager. Nous savons que nous sommes dans une situation difficile actuellement, que la justice que nous attendons être distribuée n'est pas celle-là, qu'il faut faire plus, mais je pense qu'il est souhaitable d'éviter de décourager les magistrats. Il faut les encourager.
Dialogue entre Congolais reçoit le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Luzolo Bambi, pour répondre à toutes les questions relatives au processus de recrutement des nouveaux magistrats, ainsi qu'à d'autres questions d'actualité liées au fonctionnement de la justice en RDC. Vous avez des préoccupations, voici le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais, vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Et si vous nous suivez sur Internet, écrivez-nous à Radio Capi, à www.radiocapi, écrivez-nous à Radio, à dec@radiocapi, voilà, je me suis retrouvé. Monsieur le ministre, abordons à présent l'opération Tolérance Zéro. Quels sont les résultats de cette opération à ce jour?
Merci. Il me semble trop zélé d'évaluer cette opération en termes de résultats aujourd'hui.
Pourquoi?
Parce que lorsqu'on annonce une opération et on commence une opération, je pense 4, 5, 6 mois, on peut formuler des observations. Mais dans la science de l'évaluation, je pense qu'il faut attendre le court terme, 6 mois, le moyen, 3 ans, et le long terme, à partir de 5 ans. Ce qu'il faut dire au sujet de l'opération Tolérance Zéro, il y a un élément difficilement quantifiable à mesurer pour évaluer, c'est la prise de conscience de la présence de la justice, de la présence de la sanction. D'autre part, si nous étions malfaiteurs avec vous et que nous avions le courage de mettre un jugement public, ce serait aussi un bon critère d'appréciation. Mais sur le plan formel, c'est vrai, on entend des cris de part et d'autre, parce que dans une sorte d'envolée de Tolérance Zéro, il y a eu probablement des dévoiements de cette opération. On enregistre par-ci, par-là, des comportements peut-être qui gênent. J'y reçois de temps en temps des préoccupations sur le respect de la procédure pénale, le respect de la présomption d'innocence, et parfois le recours à des méthodes pas douces par les organes appelés à appliquer cette opération Tolérance Zéro. Mais ne nous perdons pas. Nous sommes dans une lancée, il nous revient, et au ministère et aux magistrats, de recadrer l'opération pour que le principe demeure. La tendance est bonne. Il y a des personnalités qui ont été arrêtées à ce jour. La justice n'est pas le marché.
Combien de personnalités?
S'il vous plaît, je le dis, la justice n'est pas la bourse. Ce n'est pas la bourse, la justice, où chaque matin, on relève le taux, et le soir, on indique à la clôture de la journée qu'est-ce qui s'est passé.
Mais cependant, excusez-moi, monsieur le ministre, oui. je ne vous interromps pas, vous avez toujours la parole, mais c'est vous-même qui avez proclamé cette opération avec grande pompe, et la population jusqu'à ce jour attend de voir les couloules en cravate, ces grands détourneurs des fonds dont vous avez promis l'arrestation. La population continue à attendre.
Merci beaucoup. Probablement moins en province quand j'ai fait les tournées, c'est la question que pose mon procureur général, pris pour l'appel de province. Mais à Kinshasa, en temps réel, en ce moment précis, vous allez à la prison centrale de Makala.
Je vous en prie, allez-y.
Vous allez à la prison centrale de Makala. Vous y trouverez des mandataires de l'État. Vous y trouverez des responsables politiques. Vous y trouverez des responsables de tout genre. Vous avez évoqué tout à l'heure vous avez évoqué l'arrestation ou la détention préventive de membres du comité de gestion de l'OGFREM. Mais tout cela fait partie de ce que nous, à moins que nous ayons une définition différente, de ce que notre population appelle, et nous en convenons, des colonnes en cravate. Je pense que quand je vais à Makala, il y a de moins en moins de places. Les places sont remplies. Ce qu'il y a, comme je l'ai dit, c'est que ce soir, ceux qui ont été arrêtés, vous ne les connaissez pas. Mais il y a eu des arrestations ce soir. La justice, pour respecter la présomption d'innocence des personnes poursuivies, préfère le plus souvent rendre public lorsque l'affaire a été fixée par le parquet et que l'affaire se trouve en phase d'audience au tribunal, parce qu'en ce moment-là, la procédure devient orale publique et contradictoire. Mais il y a des arrestations, je me permets de dire, il y en a en nombre suffisant, nombre qui nous permettent aujourd'hui de rassurer la population que les colonnes en cravate, on a commencé à les arrêter. Il est possible que l'on attende des personnalités autres que celles qui ont été arrêtées. Sûrement, mais tout viendra.
Nous allons prendre cette question qui nous vient de la province orientale. Allô?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes en ligne. Présentez-vous et posez votre question à M. le ministre Luzolo Bambi.
Ok. Bonsoir, M. le ministre. Ma question est très brève. Je voudrais connaître votre point de vue sur la question de savoir, parce que nous avons de plus en plus des informations qui sont quelquefois vérifiées, selon lesquelles les personnes qui ont été révoquées, les magistrats qui ont été révoqués, beaucoup l'ont été sur base des critères non objectifs. Il paraît même que ceux qui ont été proposés à la révocation par les conseils supérieurs de la magistrature, ce ne sont pas ceux dont les noms se sont trouvés sur la liste des révoqués. Deuxième question, rapidement, il paraît aussi que les mises en place qui viennent d'être faites ont été sur base des critères de corruption, de clientélisme, de tribalisme et peut-être aussi de monnayage. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre réponse.
Merci beaucoup. Encore une fois, les difficultés liées à la procédure de révocation de magistrats sont de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature. Et je pense que ceux des magistrats qui n'ont pas pu participer ou qui considèrent qu'ils ont été surpris par cette décision auront l'occasion, lors de la prochaine Assemblée générale du mois d'avril, de le relever parce qu'ils y seront tous. Et je crois que la vérité, en ce moment-là, va apparaître par rapport à tout ce que notre ami est en train de dire. En passant, je lui restitue mon bonsoir aussi. S'agissant des dernières mises en place, j'aimerais que la population sache que le ministère de la Justice a reçu mission dans ce gouvernement de mission, notamment de lutter contre la corruption. Et le ministère a mis en place un site www.justice.gov.cd. Il y a une adresse mail pour tous.justice@yahoo.fr. Nous le disons toujours, le ministre de la Justice a le pouvoir de saisir disciplinairement le Conseil supérieur de la magistrature pour relever le cas de corruption. Le ministre de la Justice a reçu le pouvoir par la loi de saisir le procureur général pour lui demander d'ouvrir une enquête et au besoin, s'il faut poursuivre et arrêter tout magistrat accusé de corruption. Plaise à notre ami de porter ces informations qu'il évoque avec les éléments au site du ministère. Il sera contacté et si c'est le cas, la sanction n'hésitera pas. C'est d'ailleurs l'occasion pour nous de lui demander et de demander à l'opinion de nous mettre à l'épreuve. Nous ne pouvons pas en dire plus à ce stade.
Monsieur le ministre, toujours dans le cadre de la tolérance zéro, où en est-on à ce jour avec l'extradition de Laurent Kunda?
Oh, le problème de l'extradition, nous y sommes. Il est important de relever que dans l'histoire judiciaire du monde, le problème de l'extradition, généralement, dans tous les États, est un problème qui prend du temps. Monsieur Laurent Kunda a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international par la justice congolaise. Monsieur Laurent Kunda a fait l'objet d'une demande d'extradition formulée par le ministre de la Justice, adressée au ministre des Affaires étrangères et parvenue au Rwanda par voie diplomatique. Il y a quelque temps, nous nous sommes déplacés au Rwanda pour négocier, discuter, parce que c'est cela la procédure d'extradition, de la procédure et de la possibilité pour le Congo et le Rwanda de procéder à l'extradition.
Quel est le résultat à ce jour?
Nous sommes en discussion. Nous sommes en discussion, non pas parce que, dirait-on, on n'a pas abouti, parce qu'on a le cœur serré, on veut voir les choses vite, mais non, on n'a pas encore réalisé cette extradition, parce que tel le veut la procédure, et c'est pareil dans tous les États du monde. L'extradition est une procédure qui peut prendre une année, qui peut prendre 2 ans, dans certains États, ça prend 5 ans. Mais la volonté politique du gouvernement a été exprimée là-dessus, et nous sommes en intelligence et en échange de temps en temps avec mon collègue le ministre de la Justice du Rwanda, et dans pas longtemps, je pense que on verra si c'est lui qui va se déplacer vers ici ou c'est moi qui irai, parce que quelques conditions avaient été relevées. On a dit le Rwanda n'applique pas la peine de mort, mais la République démocratique du Congo applique la peine de mort, alors que constitutionnellement, on est en période de suspension de la peine de mort. Donc il y a beaucoup de considérations techniques, mais nous y sommes, et ce n'est pas, je crois, nécessaire. Chaque fois de faire rapport, nous avons téléphoné le ministre de la Justice du Rwanda, nous avons parlé de M. Laurent Kunda, mais nous y sommes, le gouvernement est vigilant sur cette question.
Et le cas de Bosco Ntaganda, ainsi que certains officiers FARDC qui sont accusés d'avoir perpétré des massacres, des crimes.
Merci beaucoup. Vous nous traînez dans le terrain des droits de l'homme et des violations massives des droits de l'homme. Nous avons ratifié le statut de la Cour pénale internationale. Et c'est par la volonté de lutter contre l'impunité que le chef de l'État a conclu les accords avec la Cour. Le Congo a suffisamment, par rapport à bien d'autres pays africains et du monde, le Congo a montré sa volonté de lutter contre l'impunité en transférant à la Cour pénale internationale ceux qui étaient accusés de ces crimes, quel qu'en soit ce que pensent certains de nos compatriotes. S'agissant du cas de Bosco Ntaganda, nous avons livré M. Rémi, M. Thomas Lubanga, Germain Katanga, Mathien Gouzolo. Et à ce jour, la Cour pénale internationale ne fonctionne qu'avec les détenus congolais, alors que les mandats ont été décernés contre les Ougandais de la LRA et contre d'autres.
Et là, vous voulez dire...
Non pas que nous avons marqué un bémol. Nous sommes dans la logique de lutter contre l'impunité. Nous voulons dire que toutes les autorités militaires qui ont été objectivement accusées ont été poursuivies. Il faudrait que les gens nous disent laquelle des autorités militaires ayant commis des violations massives, et en particulier les violences sexuelles, qui à ce jour, bien que accusées, ne l'est pas encore, tous ils ont été poursuivis. Mais s'agissant du cas de Bosco Ntaganda, nous l'avons relevé à la Cour, que pour des raisons de sécurité et de paix, nous avons décidé, et c'est une décision politique du gouvernement, de privilégier la paix et non de sacrifier la paix au nom de la justice pénale internationale, mais cela n'exclut pas que notre justice congolaise, à nous, prenne ses responsabilités là-dessus. Et donc, je pense que c'est pernicieux de retrancher la justice congolaise au seul cas de M. Thomas Lubanga, parce qu'il faut le dire que le meilleur élève de lutte contre l'impunité dans la justice pénale internationale à ce jour s'appelle justice congolaise.
Monsieur le ministre, il nous reste 2 minutes pour terminer cette émission. Je vais vous demander de ramasser un peu tous ces cas. Il y a des cas, des députés qui étaient accusés de minorer dans le budget de l'État la part de la DGI. Il y a dans les marchés de la construction des infrastructures, notamment avec les routes, il y a des expatriés, des Congolais qui ont été arrêtés. Mais tous ces dossiers semblent perdus dans la nature. Brièvement, parce que nous allons terminer l'émission.
La population a raison de s'interroger quelle issue est réservée à ces différents dossiers. Mais j'informe que les dossiers sont en cours et certains sont fixés. Je pense que le ministère de la Justice prendra les dispositions sur le plan de l'organisation de la communication, désormais, pour que ces différents cas puissent être portés à l'attention. Et j'aimerais que la population soit avisée.
Jacques de Bukavu Sud Kivu, nous allons terminer par cette réaction. La tolérance zéro, est-ce un slogan ou une réalité? Car mon père, comptable de la police nationale congolaise d'Ouvira, croupit à la prison centrale de Bukavu pour avoir dénoncé une affaire déroulée ici dans notre contrée.
Il faut informer le ministre de la Justice pour relever cette injustice, si c'est le cas. Mais la tolérance zéro, il faut être malfaiteur pour savoir que la tolérance zéro n'est plus un slogan, n'a jamais été un slogan, mais c'est une réalité. Pour le faire, commettez une infraction, relevez-le, c'est plus facile en public pour dire « j'ai commis telle infraction, je n'ai pas été arrêté, parce qu'il n'y a pas tolérance zéro ». Et alors on aura la réponse. Pour notre part, en concrétisant la volonté manifeste du chef de l'État, tolérance zéro est non seulement une réalité, mais elle le sera davantage les jours à venir. Et c'est un engagement ferme.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir accepté notre invitation. Fin de cette émission. Guy Matéla a réalisé la préparation. Kevin Couté, Samuel Kachak, mise en monde et Guy Marquis, coordination. Martin Sebouzangwe, présentation. Alain Hirung, restez branchés sur la fréquence de la paix. Au revoir.